Panium, numéro 11, 11.
11, 11. Le témoignage prophétique de Daniel et de l'Apocalypse.
Cela a été pour moi un long cheminement pour en arriver à ce point dans l'étude de Panium, et le titre 11, 11 est destiné à souligner que le lion de la tribu de Juda a coordonné à la fois le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse afin d'exposer les lignes internes et externes de l'histoire du scellement du peuple de Dieu au chapitre 11 et au verset 11. Juste avant la clôture de la probation, un ordre est donné de lever le sceau de la prophétie de l'Upakolax, qui était resté scellé jusqu'au moment où les histoires prophétiques internes et externes, représentées par les deux lignes de 11-11, trouvées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, sont devenues la vérité présente.
Et il me dit, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice. » Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, 10, 11.
Le temps est proche, juste avant la fin de la période de probation, et le temps est proche lorsque l'Apocalypse de Jésus-Christ est décelé.
La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître en envoyant par son ange à son serviteur Jean, lequel a gérant du témoignage de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ, et de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1:1-3.
Lorsque le lion de la tribu de Juda brise les sceaux de la révélation de Jésus-Christ, comme il le fait depuis l'arrivée du message du cri de minuit en juillet 2023, ce dévoilement inclut la révélation qu'il est Palmoni, le merveilleux dénombreur ou le dénombreur des secrets. Ne pas accepter cette vérité, c'est échouer au processus d'épreuve qui scelle les 144 000.
Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son air et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 3, 11, 12.
Je ne saurais dire quand commencera ce processus de purification, mais il ne sera pas longtemps différé. Celui qui a son van à la main purifiera son temple de sa souillure morale. Il nettoyera son air à fond. Témoignage au ministre 362-373.
Les prophéties qui identifient le temps du scellement comme un processus de mise à l'épreuve prophétique sont plus que nombreuses. Il est clair que ce processus d'épreuve repose sur l'aptitude des étudiants et leur capacité à appliquer la bonne ou la mauvaise méthodologie pour étudier la parole prophétique de Dieu. Cette vérité est également largement mise en évidence dans le récit inspiré.
Quant à ces quatre jeunes gens, Dieu leur donna la connaissance et l'habileté dans toute instruction et toute sagesse. Et Daniel avait l'intelligence de toutes les visions et de tous les rêves. Au terme des jours que le roi avait fixés pour les faire venir, le chef des eunuques les présenta devant Nabucodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et parmi eux tous, on ne trouva personne comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils se tinrent devant le roi. Et pour toutes les questions de sagesse et d'intelligence sur lesquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui se trouvaient dans tout son royaume. Daniel 1, 17, 20.
Une règle fondamentale de l'interprétation prophétique veut que la vérité soit établie par le témoignage de deux, et ceux qui ne se fient pas à ce principe se vouent à l'échec. Un élément du processus de mise à l'épreuve pendant le temps du scellement consiste à reconnaître le lien entre les histoires internes et externes, telles que représentées au chapitre 11, verset 11, chez Daniel et Jean.
L'Apocalypse est un livre scellé, mais c'est aussi un livre ouvert. Il relate des événements merveilleux qui doivent se produire dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Les enseignements de ce livre sont précis, non pas mystiques ni inintelligibles. On y reprend la même ligne prophétique que dans Daniel. Dieu a répété certaines prophéties, montrant ainsi qu'il faut leur accorder de l'importance. Le Seigneur ne répète pas des choses qui n'ont pas grande importance. Manuscript Relise, volume 9, 8.
Les livres de Daniel et de l'Apocalypse représentent deux témoins. Et les 144 000 sont représentés comme deux témoins dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Au verset 11 de ce chapitre, les deux témoins, représentés par Élie et Moïse, sont ressuscités, comme préfigurés à la fois par Jean dans l'huile bouillante et par Daniel dans la fosse aux lions. Les 144 000 sont représentés par Daniel et Jean, et aussi par Élie et Moïse. pour réussir le processus d'épreuve qui produit les 144 000, un étudiant doit comprendre que la vérité est établie sur la base de deux témoins, que les livres de Daniel et de l'Apocalypse représentent deux témoins, et que les 144 000 ont été préfigurés par Élie et Moïse, ainsi que par Daniel et Jean. Ces vérités ne sont qu'un bref échantillon des vérités prophétiques associées à l'histoire interne et externe, représentées par 11-11, tant dans Daniel que dans l'Apocalypse. En tant que palmonie, le Christ a guidé l'alignement des deux passages et s'est aussi montré que 11 plus 11 font 22, ce qui, à son tour, est une dîme ou un dixième de 220, qui est un symbole de la combinaison de la divinité avec l'humanité. Palmonie a établi, sur la base de plus de deux témoins, que 220 représente la combinaison de la divinité et de l'humanité, ce qui est à son tour une description de l'incarnation du Christ lorsqu'il a assumé une chair déchue. Ce faisant, il a donné à l'humanité l'exemple que si elle est disposée à satisfaire aux exigences de l'Évangile, le Christ est disposé à unir sa divinité à notre humanité. La divinité et l'humanité sont donc deux témoins. La révélation de Jésus-Christ, qui s'est ouverte juste avant la clôture de la probation, inclut le fait que Jésus est la parole de Dieu.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont pas comprise. Jean 1, 1-5.
La Bible est la parole de Dieu et, tout comme le Christ, elle représente l'union de la divinité et de l'humanité. La Bible représente les deux témoins de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont également Moïse et Élie, au chapitre 11 de l'Apocalypse.
Concernant les deux témoins, le prophète ajoute « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. » « Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Apocalypse 11:4, psaume 119:5 et une lumière sur mon sentier. Les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. La grande controverse, 267.
Les deux témoins sont les deux oliviers, les deux chandeliers, ainsi que l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui est représenté dans le paragraphe comme « ta parole ». La révélation de Jésus-Christ, qui est décelée par le lion de la tribu de Juda, juste avant la clôture de la probation, est l'accroissement final de la connaissance, qui met à l'épreuve ceux qui sont candidats à être au nombre des 144 000. Cet accroissement final de la connaissance est aussi le message du cri de minuit dans la parabole des 10 vierges.
Alors je répondis et lui dis « Que sont ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Et je repris encore la parole et lui dis « Que sont ces deux rameaux d'olivier qui, par les deux conduits d'or, déversent d'eux-mêmes l'huile d'or ?» Il me répondit et dit « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis « Non, mon Seigneur. » Alors il dit « Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Zacharie 4, 11, 14. Ceux-ci se déversent dans les coupes d'or, qui représentent les cœurs des messagers vivants de Dieu, lesquels portent la parole du Seigneur au peuple par des avertissements et des supplications. La parole elle-même doit être, ainsi qu'elle est représentée, l'huile d'or, versée par les deux oliviers qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. C'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Cela amènera la conviction dans l'âme des incroyants. Les besoins de l'âme ne peuvent être comblés que par l'action du Saint-Esprit de Dieu. L'homme, par lui-même, ne peut rien faire pour satisfaire les désirs et répondre aux aspirations du cœur. Le commentaire biblique adventiste du septième jour, volume 4, 180.
La parole de Dieu est à la fois la Bible et le Christ. Et la Bible et le Christ représentent deux témoins, tout comme les 144 000. Les deux témoins représentent à leur tour l'union de la divinité et de l'humanité. Ils représentent également des récits prophétiques internes et externes. En tant que témoins, ils ont apporté la preuve que la divinité unie à l'humanité ne pèche pas. Ils représentent aussi le lien entre la divinité et l'humanité. Qu'il s'agisse d'une échelle, d'un conduit, de tuyaux, d'anges ou de tout autre symbole du lien de communication entre Dieu et l'homme, le message transmis à l'homme porte toujours sur la vie ou la mort.
Les oints qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre occupent la position autrefois donnée à Satan comme chérubin protecteur. Par les êtres saints qui entourent son trône, le Seigneur maintient une communication constante avec les habitants de la terre. L'huile d'or représente la grâce par laquelle Dieu alimente les lampes des croyants, afin qu'elles ne vacillent pas et ne s'éteignent pas. Si cette huile sainte n'était pas répandue du ciel par les messages de l'Esprit de Dieu, les puissances du mal auraient un contrôle total sur les hommes. Dieu est déshonoré lorsque nous ne recevons pas les communications qu'il nous envoie. Ainsi, nous refusons l'huile d'or qu'il voudrait verser dans nos âmes pour être communiqué à ceux qui sont dans les ténèbres. Quand l'appel se fera entendre, « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Ceux qui n'auront pas reçu l'huile sainte, qui n'auront pas chéri la grâce du Christ dans leur cœur, constateront comme les vierges folles qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer leur Seigneur. Ils n'ont pas en eux-mêmes le pouvoir d'obtenir l'huile et leurs vies sont ruinées. Mais si nous demandons l'Esprit Saint de Dieu, si nous supplions, comme Moïse, « Montre-moi ta gloire », l'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs. Par les conduits d'or, l'huile d'or nous sera communiquée. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. En recevant les rayons brillants du soleil de justice, les enfants de Dieu brillent comme des lumières dans le monde. Review and Herald, 20 juillet 1897.
L'effusion du Saint-Esprit se produit au cours des histoires internes et externes marquées par Daniel et Apocalypse 11:11. Il y a au moins 4 personnages prophétiques représentés aux versets 11 et 12 du chapitre on veut de Daniel qui doivent être identifiés. Il y en a également 4 à identifier au verset 13 à 15 et 4 au verset 16. Nous vivons maintenant cette histoire même. Il nous incombe donc, en tant qu'étudiants de la prophétie, d'élucider qui sont les personnages symboliques des versets 11 à 16, car ils représentent une ligne de prophétie qui couvre l'histoire cachée du verset 40 du même chapitre.
Il semble également pertinent d'identifier les personnalités représentées dans l'histoire du verset 40 qui se dévoile depuis 1989.
Et il dit « Va Daniel ». Car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Daniel 12, 9, 10.
Le verset 40 commence au temps de la fin, en 1748, lorsque Napoléon de France fait le pape prisonnier. La justification de Napoléon était fondée sur la rupture du traité de Tolentino en 997. Le combat entre Napoléon et le pape avait auparavant été préfiguré dans l'histoire qui accomplissait les versets 6 et 7 du chapitre 11 de Daniel. Le traité de mariage rompu et la défaite du roi du Nord par le roi du Midi, en accomplissement des versets 6-7, furent répétés dans l'histoire de 1798 et, ce faisant, ils représentent la prédiction de la parole de Dieu au verset 6-7, ainsi que l'accomplissement de ces versets au début de la guerre entre Ptolémée Philadelphe, le second, roi d'Égypte, et Antiochus Théos, troisième roi de Syrie. Ptolémée représentait le roi du Midi et Antiochus représentait le roi du Nord. La prédiction des versets, mise en relation avec l'accomplissement de cette prédiction, dans l'histoire de Ptolémée et d'Antiochus, qui, à son tour, a servi de type. Ainsi que l'histoire de Napoléon et du pape en 7798, fournissent 3 lignes qui préfigurent l'histoire de Poutine et de Zelensky dans les versets 11 et 12. Ainsi, comprendre que le temps de la fin en 7798 représente l'histoire de Napoléon et du pape est incomplet si l'on s'arrête là. Nous devons comprendre ce que les versets 6 et 7 prédisent au sujet de Napoléon et du pape, et aussi ce que l'histoire de Ptolémée et d'Antiochus enseigne au sujet de cette même période. Lorsque nous comprenons ces lignes de vérité, nous pouvons alors comprendre que ces accomplissements historiques antérieurs identifient le début de l'histoire du verset 40 et, ce faisant, identifient aussi la fin du verset 40. Lorsque Poutine, qui a été préfiguré par Napoléon et Ptolémée, Poutine qui a été prédit aux versets 6 et 7, accomplit les versets 11 et 12. Une observation importante concernant la relation prophétique entre le dragon et la bête, telle que Jean les désignerait, ou le sacrifice perpétuel et l'abomination de la désolation, telle que Daniel les représenterait, et qu'ils sont prophétiquement très semblables. Jean l'exprime ainsi.
« Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné sa puissance à la bête. Et ils adorèrent la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre ?» Apocalypse 13, 4.
Adorer le dragon, c'est adorer la bête, car tous deux représentent la religion du paganisme. À l'instar de Jean, Daniel emploie la petite corne du livre de Daniel, chapitre 8, versets 9 à 12, pour représenter à la fois Rome païenne et Rome papale, tout en distinguant clairement les deux en identifiant la petite corne de la Rome païenne au masculin et la petite corne de la Rome papale au féminin. Au chapitre 7, Daniel identifie la Rome païenne comme différente des royaumes qui l'ont précédée et Daniel précise en outre que la Rome papale était également différente. Rome, qu'elle soit païenne ou papale, est différente. Le symbole masculin de Rome, représentant la Rome païenne, est illustré par Achab et Hérode. Tous deux étaient mariés à des symboles de la papauté, La femme était le pouvoir ecclésiastique et l'homme est le pouvoir civil. Ainsi, au niveau prophétique, lorsque la parole de Dieu parle d'un homme et d'une femme devenant un, elle confirme la réalité selon laquelle la Rome païenne et la Rome papale sont très semblables au sens prophétique, car elles ne font qu'une seule chair. La relation de la France avec la papauté en 1798 illustre la relation des États-Unis avec la papauté lorsque les 10 rois brûleront Rome par le feu et mangeront sa chair.
Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée. Elles la ravageront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la brûleront au feu. Apocalypse 17-16.
La relation de la France à la papauté, lorsqu'elle mit la papauté au pouvoir en 1633, illustre l'œuvre des États-Unis pour guérir la blessure mortelle de la papauté à l'occasion de la loi du dimanche imminente.
Et je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle amenait la terre et ceux qui y habitent à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands prodiges, au point de faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les miracles qu'il lui était donné d'accomplir en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête, qui avait reçu la blessure de l'épée et qui avait survécu. Apocalypse 13, 11-14.
Le temps de la fin, en 1798, en accomplissement du verset 40, indique que le roi spirituel du Nord est déposé par le roi spirituel du Sud. Cette histoire prophétique constitue la phase finale des 1260 ans de domination papale. Et, par conséquent, les caractéristiques prophétiques du commencement de cette histoire se retrouvent à la fin. En 533, le quatrième royaume de la prophétie biblique a cédé la place au cinquième. Et en 1798, le cinquième a cédé la place au sixième. Phaïsicié est aussi un jalon intermédiaire de la malédiction des 7 ans du Lévitique, 26 contre le royaume du nord d'Israël, qui commença en 723 avant Jésus, lorsque l'Assyrie emmena Éphraïm en captivité. 798 possède donc non seulement les attributs prophétiques de 631 dons, mais aussi ceux de 723 avant Jésus. En 723 avant Jésus, les 10 tribus d'Israël étaient renversées par l'Assyrie et 1260 ans plus tard, en 538, Rome païenne était renversée par la Rome papale qui fut à son tour renversée par la France en 798 à la fin des 7 ans. En 692, la France, le roi du Sud, a retiré la papauté du trône. En 538, la France, premier symbole de la désintégration de la Rome païenne en 10 royaumes, a placé la papauté sur le trône. Lors de la loi du dimanche, les États-Unis répètent le rôle de la France en 538, et lorsque les 10 rois brûlent la papauté au feu et mangent sa chair, les États-Unis répètent le rôle de la France en 792. Le jugement des 7 ans contre les royaumes du nord et du sud d'Israël a été provoqué par des royaumes issus du nord.
Israël est une brebis égarée. Les lions l'ont chassé. D'abord, le roi d'Assyrie l'a dévoré, et enfin ce Nabuchodonosor, roi de Babylone, lui a brisé les os. Jérémie 15:17.
La Syrie est venue du nord et a conquis les 10 tribus en 723 avec Jésus-Christ. Et Babylone a emmené Juda en captivité en 777 avec Jésus-Christ. Bien qu'Israël était le royaume du nord par rapport à Juda, les deux royaumes ont néanmoins été conquis par des ennemis venant du nord, faisant ainsi d'Israël et de Juda des royaumes du sud par rapport à l'ennemi qui les a emmenés en captivité. 723 avec Jésus-Christ représente le roi du nord conquérant un royaume décuple du sud. 538 représente une transition du paganisme au papalisme, ainsi qu'un royaume du nord conquérant un royaume décuple. 2798 représente un roi du nord vaincu par un roi du sud qui représente un royaume d'occuple.
Et à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville s'effondra. Et dans ce tremblement de terre, 7000 hommes furent tués, et le reste, saisi de crainte, donna gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, 13.
La période de transition associée à 538, lorsque Rome passa de païenne à papale, correspond aussi au changement. Au chapitre 8 de Daniel, du masculin au féminin, ce qui symboliquement va de la politique d'État à la politique ecclésiastique. La prophétie des 7 ans porte la signature de la vérité en ce que la première lettre 733 du Avigis Christ illustre la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu 798, tandis que la 13e, la lettre médiane, représente la rébellion 538. Daniel indique que la transgression symbolisée par l'expression « la transgression de la désolation » était la combinaison de l'Église et de l'État, l'Église contrôlant la relation. Cette transgression représente 538, qui est le poids médian et métaphoriquement la 13e lettre des trois jalons principaux dans la période des sept temps contre les dix tribus du nord d'Israël. En 7928, au temps de la fin, tel qu'énoncé au verset 40 du chapitre 11 de Daniel, la France athée, le roi du sud, infligea la blessure mortelle à la papauté, le roi du nord. En 1989, la papauté riposta contre le roi athée du sud, qui était alors devenu l'Union soviétique. Cette riposte comprenait une alliance secrète entre les États-Unis et le Vatican. L'effondrement de l'Union soviétique en 1989 met fin au message prophétique écrit du verset 40, et le verset suivant, le verset 41, représente la loi du dimanche aux États-Unis. Ainsi, depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1989 jusqu'à la loi du dimanche dans le verset suivant, nous vivons dans l'histoire cachée du verset 40. Le verset 40 commence par identifier un roi du Sud et un roi du Nord en 1798. Puis en 1989, un roi du Sud et un roi du Nord, ainsi qu'une troisième puissance représentée par les chars, les navires et les cavaliers.
Au temps de la fin, le roi du Midi l'attaquera, et le roi du Nord fondra sur lui comme un tourbillon, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il entrera dans les pays, débordera et passera outre. Daniel 11, 40.
Au temps de la fin, en 1798, un véritable général de Napoléon entra au Vatican, s'empara littéralement du pape et l'incarcéra. En 1989, la revanche pour 1798 a eu lieu. Il y a eu des transitions prophétiques qui se sont produites dans l'histoire entre 1798 et 1989 qu'il est important de noter. La France athée, le roi du Sud à l'époque de 1798, a été le premier roi du Sud spirituel et la Russie de Poutine est destinée à en être le dernier. La France est identifiée dans l'Apocalypse, chapitre 11, que Sir White désigne directement comme la France athée. L'un des deux symboles qui identifient la France dans le chapitre 11 est l'Égypte, que Sir White identifie comme un symbole de l'athéisme. Dans ce chapitre, la bête qui monte du puits de l'abîme est-elle l'athéisme qui fit son apparition dans l'histoire durant cette période? L'athéisme entre dans l'histoire en commençant par la France vers 6 ans cet été, et en 1989, le roi spirituel de l'athéisme est devenu l'Union soviétique. L'effondrement de l'Union soviétique en 1989, en accomplissement d'une alliance secrète entre le pape Jean-Paul II et Ronald Reagan, avait été préfiguré au verset 10 du chapitre 11 de Daniel. Et un second témoignage du verset 10 se trouve dans le passage d'Ésaïe sur les deux malédictions de 2520 ans contre les royaumes du Nord et du Sud d'Israël, tel qu'exposé au chapitre 7 à 11.
1989 devient donc le point de référence pour résoudre les énigmes prophétiques des derniers jours.
C'est alors que le verset 40 a été décelé. On peut désormais reconnaître que le verset 40 commence en 1798 et prend fin avec la loi du dimanche du verset 41.
Au moment de la loi du dimanche, les États-Unis parleront comme un dragon et mettront fin à leur domination en tant que sixième royaume de la prophétie biblique. Leur règne a commencé en 1719, lorsque le cinquième royaume a reçu une blessure mortelle. En 1719, décembre, les États-Unis ont adopté les lois sur les étrangers et la sédition, typifiant ainsi la fin du sixième royaume dès son tout début. Le verset 40 est donc l'histoire des États-Unis en tant que sixième royaume de la prophétie biblique.
2029 est ses premières lettres de l'alphabet hébreu. La loi du dimanche est la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et 1989 est le jalon central qui représente la rébellion, symbolisée par le nombre 13 et la 13e lettre de l'alphabet hébreu. 1989 représente la rébellion de l'alliance secrète de Reagan avec l'Antéchrist de la prophétie biblique. 1989 introduit le premier des huit derniers présidents qui gouvernent pendant une période de rébellion croissante contre la Constitution. 1989 a inauguré un processus d'épreuve parmi les adventistes du septième jour destiné à produire deux classes d'adorateurs. Les fidèles sont peu nombreux, les infidèles sont en grand nombre. 1989 représente le jalon central du verset 40 et il représente la rébellion symbolisée par la 13e lettre. Le verset 40 porte la signature de vérité.
Le verset 40 fait intervenir des rois du Nord et du Sud qui, dans l'histoire à la fin du verset, sont différents. Il inclut aussi les États-Unis, qui, selon Jean, sont le faux prophète qui œuvre avec le dragon et la bête pour conduire le monde vers l'Armageddon. Le roi du Sud, au verset 40, est le dragon,
le roi du Nord est la bête. Les chars, les navires et les cavaliers sont le faux prophète. L'accomplissement du verset 40 en 1989 devient un attribut prophétique important pour comprendre les versets 11 à 15. Si vous n'avez pas raison quant à 1989, vous ne pouvez pas logiquement avoir raison quant à l'histoire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. De 1989 jusqu'à la loi du dimanche, trois guerres par procuration pour la papauté sont représentées dans les versets 10 à 15. Ces versets doivent être considérés comme une seule histoire continue, car le même Antiochus Magnus se retrouve dans les trois batailles représentées dans l'accomplissement historique des versets 10 à 15. Les trois batailles constituent une seule ligne prophétique, car Antiochos le Grand se trouvait dans chacune des trois batailles. Le verset 10 et Ésaïe 8:8 fournissent deux témoins de l'accomplissement du verset 40 en 1989. Le verset 40 est le point de référence dans le verset 10 et dans Ésaïe 8:8. Les chars, navires et cavaliers représentent les deux cornes de la bête qui monte de la terre au chapitre 13 de l'Apocalypse. À la fin, lorsque les États-Unis parlent comme un dragon, les deux cornes ne sont plus le républicanisme et le protestantisme. À ce moment-là, les soi-disant protestants s'uniront au catholicisme et la République constitutionnelle sera transformée en dictature. Durant cette période, les deux cornes de la bête qui montent de la terre seront la puissance économique et la puissance militaire. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, les États-Unis contraignent le monde à accepter la marque de la bête pour pouvoir acheter et vendre, et aussi sous menace de mort. Ces deux cornes correspondent aux navires, chez Daniel, représentant la puissance économique, et aux cavaliers et chars, représentant la puissance militaire. Nantapide 1900 établit que, lorsqu'on applique l'accomplissement historique des batailles de Raphia et de Panium dans les versets 11 à 15, il faut employer la même méthodologie prophétique que celle qui a été utilisée pour comprendre 1989 et l'effondrement de l'Union soviétique, car Antiochus Magnus était présent dans les trois batailles représentées dans les versets 10 à 15. Antiochus représente la puissance des chars, des navires et des cavaliers, qui, en 1989, était Ronald Reagan, le premier de huit présidents, dont le dernier était aussi le sixième et est maintenant le huitième qui est des sept. Selon Ésaïe 23, la puissance papale, la prostituée qui se livre à la débauche avec les rois de la terre, serait cachée durant le règne des États-Unis en tant que sixième royaume de la prophétie biblique. En 1989, les États-Unis, qui avaient été préfigurés par Antiochus Magnus, étaient la puissance par procuration de la papauté dans sa guerre contre la bête de l'athéisme qui lui affligea une blessure mortelle en 1798. Les trois batailles des versets 10 à 15 représentent une guerre entre le roi du Nord qui, en tant que prostituée cachée de Tyr, emploie des puissances supplétives tandis qu'elle progresse vers la restauration de son pouvoir et la défaite du roi de l'athéisme du caché, le roi du Sud. Les accomplissements historiques des trois batailles des versets 10 à 15 nous apprennent que, dans la première et la dernière bataille, Antiochus Magnus a remporté la victoire, mais il a perdu la bataille intermédiaire. Les caractéristiques prophétiques des années 1989 de Ronald Reagan avec le pape Jean-Paul II et l'effondrement de l'Union soviétique auront un pendant dans la dernière des trois batailles, car ces versets sont dévoilés juste avant la clôture de la période de probation. De même que le verset 40 a été dévoilé en 1798, puis de nouveau en 1989, ce verset a été dévoilé à la fin, à partir de juillet 2023. L'Apocalypse de Jésus-Christ est décelée juste avant la fin du temps de grâce, et elle inclut la vérité prééminente que Jésus est le premier et le dernier, et qu'à ce titre, il illustre toujours la fin par le commencement. Le temps de grâce se termine pour l'adventisme à la loi du dimanche, et juste avant la fin du temps de grâce, l'Apocalypse de Jésus-Christ est décelée. Le message qui s'achève à la porte fermée de la loi du dimanche est le message du cri de minuit, qui a conduit à la porte fermée du 22 octobre 1844 dans l'histoire millérite. Le décèlement de 1798 et d'Odébit du verset 40, qui est aussi le commencement des États-Unis en tant que sixième royaume de la prophétie biblique, a typifié le décèlement de 1989 au milieu du verset 40 et le début de la fin progressive des États-Unis. Le décèlement de 1798, qui a typifié 1989, représente deux témoins du décèlement du message du cri de minuit en 2023. La ligne, avec ses trois jalons, 1998, 1989 et 2023, identifie l'œuvre interne de purification des 10 vierges et la ligne externe du sixième royaume de la prophétie biblique. La bataille présentée au verset 11, qui s'est accomplie lors de la bataille de Raphia, lorsque Antiochus fut vaincu par Ptolémée, représente une défaite de la puissance papale par procuration, laquelle, dans la bataille actuelle, correspond aux nazis d'Ukraine alliés aux nations mondialistes d'Europe occidentale, qui composent l'UE et l'OTAN, et qui sont en parfait alignement avec les mondialistes politiques et économiques des Nations Unies. Si Antiochus Magnus était présent aux trois batailles et représente la puissance papale par procuration contre le roi du Sud, comment peut-il s'agir des États-Unis en 1989, puis des Ukrainiens, comme le typifie la bataille de Raphia, puis à nouveau des États-Unis à la bataille de Panium? Le verset 10 est la clé des versets 11 à 15, car son accomplissement en 1989 fournit une illustration des caractéristiques prophétiques de la première des trois guerres par procuration. Quelle est la justification prophétique pour identifier Antiochus comme la puissance papale par procuration, tout en n'appliquant pas les États-Unis à chacune des trois batailles?
Dans l'histoire de la guerre en Ukraine, symbolisée par la bataille de Raphia, les États-Unis ont employé les nazis d'Ukraine comme force supplétive. Dans cette même histoire, où ils façonnent une image de la papauté, la puissance qui a toujours recours uniquement à des forces supplétives pour faire son sale travail.
Répondre à la question des puissances par procuration au verset 10 à 15 implique une étude prophétique des caractéristiques d'Antiochos en tant que symbole. Les guerres des Diadoques furent une série de conflits de 383 à 281 avant Jésus-Christ entre les Diadoques, grecs pour successeurs, les généraux et successeurs d'Alexandre le Grand qui se disputèrent le contrôle de son vaste empire après sa mort en 383 avant Jésus-Christ. Le premier Antiochos fut Antiochos Ier Sotère, fils de Séleucos Ier Nicator, l'un des Diadoques d'Alexandre, fondateur de l'empire séleucète.
Le nom Antiochus peut être compris comme signifiant « celui qui se tient à la place d'un autre afin de soutenir ». Antiochus est un symbole de Rome, et Rome papale est l'antéchrist qui possède un symbolisme semblable à celui d'Antiochus. Antiochus, en tant que nom, désignait le fils du fondateur de l'empire séleucide et, en ce sens, Antiochus tenait la place de son père, il en était le représentant. Sir White identifie à la fois Satan et le pape comme l'antéchrist et affirme que le pape est le représentant de Satan sur la terre. Il devint un nom dynastique important dans l'Empire séleucide, en partie en raison de son association avec Antiochus Bilosoter et la ville d'Antioche, nommée d'après le père ou le fils de Séleucus Bilosoter. Le pape est le représentant de Satan et symboliquement, le nom Antiochus représente un substitut pour son père, le fondateur du royaume du Nord qui en fixa la capitale à Babylone. Après la mort d'Alexandre le Grand en 330 Tashifkarajimen, son empire se fragmenta entre les Diadoques, successeurs. Lors du partage de Babylone 333 Tashifkara, Séleucos fut d'abord nommé commandant de la cavalerie des Compagnons. Un poste militaire prestigieux sous les ordres de Perticas, le régent de l'Empire. En Tafatune de Dachefkara, Séleucos fut nommé satrape, gouverneur, de la Babylonie lors du partage de Triparadissos, à la suite de la mort de Perdiccas et de nouvelles négociations entre les Diadoques. En 316 à Chefkara, Antigone Ier Monophthalme, un autre Diadoque, força Séleucos à fuir Babylone en raison de la montée en puissance d'Antigone. Séleucos trouva refuge auprès de Ptolémée Ier Sauteur en Égypte. En 312 à Chefkara, Séleucos revint à Babylone avec un petit contingent fourni par Ptolémée. Il vainquit les forces d'Antigone et reprit Babylone, marquant l'établissement de sa base de pouvoir. Cet événement est souvent considéré comme la fondation de l'Empire séleucide, 312 à Chefkara étant le début de l'ère séleucide dans la chronologie historique.
Le nom Séleucus est dérivé du grec et vient de la racine Sélas, Sélas, qui signifie lumière, éclat ou flamme. Le nom suggère l'éclat ou l'illumination, ce qui convient à une figure éminente comme Séleucus ou Primo V Nicator, le fondateur de l'Empire séleucide et qui personnifie le père qui avait été le porteur de lumière dans les cieux.
Pour s'assurer des gains et des honneurs mondains, l'Église fut amenée à rechercher la faveur et le soutien des grands de la terre. Et, ayant ainsi rejeté le Christ, elle fut amenée à prêter allégeance aux représentants de Satan, l'évêque de Rome. La grande controverse, 50.
Antiochus Magnus représente le relais du pouvoir papal, tout comme le pape représente le relais de Satan. Le symbolisme d'Antiochus autorise des relais de pouvoir différents, tout comme il y a eu de nombreux papes. Reagan fut le relais de 1989, l'Ukraine est devenue le relais des États-Unis en 2014 et Trump est le relais lors de la bataille de Panium. Reagan fut le premier, Trump est le dernier demain. Et Zelensky est la rébellion au milieu.